carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Paul Jouve se destine très tôt à la sculpture et à la peinture animalière. Il se rend à l'école des arts décoratifs à l'âge de 13 ans et à 22 ans déjà, il expose une frise d'animaux stylisés. C'était en 1900 à l'exposition universelle de Paris. Paul Jouve devient un sculpteur et un peintre animalier le plus emblématique de l'époque Art Nouveau, puis Art Déco, dans la veine de Jean Dunant, dont il était proche. Paul Jouve a aussi été un décorateur et un illustrateur hors pair. Ces fauves, ces animaux sortis tout droit de ses observations en Afrique et en Extrême-Orient, illustrent ainsi les livres de Kipling, Colette, La Fontaine et Balzac. Et Paul Jouve entre à l'Académie des Beaux-Arts en 1945. Bonjour Yves Gagneux.
Bonjour.
Vous êtes commissaire de l'exposition Paul Jouve à la Maison de Balzac à Paris, exposition qui a lieu jusqu'au 8 janvier 2008. La Maison Balzac a ouvert ses portes à Paul Jouve puisque, comme je viens de l'évoquer, ce peintre a illustré une passion dans le désert de Balzac, dernier ouvrage précieux d'art dans la veine de ceux de l'entre-deux-guerres. Un écrivain vous avait donc fait correspondre un peintre et un sculpteur. Alors, cette exposition est magnifique. Nous allons tenter d'en faire un catalogue sonore. Yves Gagneux, votre exposition est donc organisée autour de Balzac, sans doute, et autour de l'ouvrage « Une passion dans le désert » qui date de 1949.
Alors, l'ouvrage même de Balzac, la production de Balzac date de 1830. Elle a été publiée le 24 décembre 1830, ce qui en fait en fait un très curieux cadeau de Noël, puisque cette histoire qui est assez peu connue aujourd'hui du public est très déroutante et, pour tout le dire, un peu scabreuse. Une passion dans le désert, c'est en effet la passion qu'entretient un soldat de l'armée napoléonienne perdu dans la Haute-Égypte avec une panthère. Donc nous sommes très loin du petit Jésus. Alors, cet ouvrage que Balzac a publié en 1830 n'a jamais été illustré de son vivant. Et les illustrations postérieures sont assez faibles, très peu nombreuses et limitées à une ou deux vignettes. Arrive Paul Jouve, qui, avec toute sa formation, est évidemment le peintre, l'artiste qu'il faut pour illustrer un tel ouvrage. Donc Paul Jouve, vous l'avez dit, est quelqu'un qui a commencé sa carrière comme sculpteur, mais il a été aussi dessinateur, il travaillait avec des laquiers, avec des mosaïstes. Et il a également participé à plusieurs projets de livres d'art. Alors, la première réalisation qu'il a rendue célèbre, c'est en effet ce décor pour la frise de la porte d'entrée de l'exposition universelle de 1900. C'est vraiment ce qui a fait de Paul Jouve un artiste à la mode. Et cette mode ne s'est pas démentie. Dans les années 20-30, Paul Jouve est certainement un des artistes les plus célèbres de son temps. Et c'est en tout cas un de ceux qui gagnent le mieux son existence. Il a des revenus qui sont assez largement supérieurs à ceux de Pablo Picasso, par exemple, dans les années 30 quand même.
Donc ici, vous exposez beaucoup de ces peintures et sculptures des années 20 et 30, ces années fastes pour Paul Jouve, un peu en prémisse ou en clin d'œil de ce qui va se passer ensuite avec l'ouvrage de Balzac. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà, qui sont déjà là dans les années 20 et 30 et qu'on va retrouver ensuite dans l'ouvrage de 1949.
Oui, la première salle de l'exposition montre un peu le parcours de Paul Jouve. Donc nous avons un de ces éléments de 1900. Nous avons aussi des dessins qui présente la façon de Paul Jouve avant la guerre. Ce sont des animaux qui sont parfaitement dessinés, c'est très décoratif, c'est très gracieux, mais passé la guerre, Paul Jouve modifie complètement son art et c'est un choix raisonné qu'il fait, choisit d'aller vers la synthèse. Donc il fait des animaux beaucoup plus puissants, beaucoup plus ramassés, c'est beaucoup plus synthétique, c'est très fort. On est vraiment dans le style des années 20, des années 30, et Jouve a participé à la création de ce style. C'est aussi ce qui fait l'importance de cet artiste. Et c'est cela qui va vraiment le rendre aussi célèbre qu'il a pu l'être.
Le style orientaliste qui était à la mode à l'époque.
Dans le cas de Jouve, on n'est pas véritablement dans l'orientalisme. Jouve a connu l'Orient. Il a fait un voyage de près d'une année en Extrême-Orient. Il est allé dans la Nam, dans la Cochinchine. Il est resté assez longtemps en Inde. Il a fait un certain nombre de représentations d'Angkor. Mais Paul Jouve n'est pas un orientaliste. C'est quelqu'un qui est décorateur et qui est surtout animalier. Donc il a vraiment fait du portrait d'animal. C'est comme ça que le voient ses contemporains pendant toute son existence. Et les contemporains étaient frappés par l'expression psychologique que Paul Jouve arrivait à donner à ses fauves.
des fauves très apaisées. Enfin, là, on est devant le contraire de ce que je viens de dire, puisqu'on est devant une des rares œuvres qui présente des animaux en lutte. La plupart des animaux, justement, sont dans une démarche très lente.
Mais à vrai dire, même votre observation est tout à fait juste, et même lorsque les animaux sont en lutte, on a le cas de ces deux mouflons, et on a aussi le cas de cette très belle mosaïque qui présente la lutte d'une panthère avec un serpent. Même dans ce cas-là, les animaux sont calmes, ils sont posés. C'est très éloigné de l'art d'un Barry, pour reprendre un grand sculpteur animalier du 19e siècle, où l'on a des lions, le poil hérissé de partout, les pattes dans tous les sens. C'est au contraire toujours très posé, même dans l'action la plus franche.
Paul Jouve, c'est tout à fait inscrit dans cette veine d'art déco qui affectionnait les animaux, et les animaux d'Extrême-Orient.
Qui affectionnait les animaux, qui de manière générale affectionnait l'art décoratif, mais le traitement est toujours, comme vous le dites, très décoratif. Nous avons là donc une mosaïque absolument magnifique. C'est une œuvre qui n'a jamais été présentée au public. Elle est actuellement, c'est une œuvre de l'Institut de France, qui est en dépôt au Musée des années 30 à Boulogne-Billancourt. Elle sort des réserves, c'est la première fois qu'elle est montrée, et c'est véritablement un chef-d'œuvre de cet art de la mosaïque. Si on regarde attentivement, on se rend compte que les éléments dorés, les tesselles dorées qui composent cette mosaïque, sont tantôt avec une feuille d'or qui est véritablement sur la surface, tantôt, au contraire, la feuille d'or est protégée par un morceau de verre, ce qui fait qu'il y a des jeux de profondeur. Idem pour les tesselles d'argent, certains sont lisses, d'autres sont bosselés, de façon à faire miroiter la lumière. Et tous ces détails qui sont invisibles de loin donnent une vie à l'ensemble d'un côté extrêmement chatoyant et tout contribue à rendre la composition complètement décorative. Le paysage n'existe pas, il est juste là pour faire des touches de couleurs, des éléments, et c'est vrai pour les autres paysages sur les autres peintures. On a des panthères avec par derrière des falaises ou des forêts, mais en fait ces falaises, ce sont des touches de blanc, des touches de bleu, des touches de rouge. Le ciel est une composition de couleurs, ça n'est pas un paysage, c'est un fond décoratif.
Paul Jouve s'est inspiré non seulement de ses voyages, mais il a également passé beaucoup de temps, comme beaucoup d'autres peintres, dans les jardins à Paris, dans le jardin d'acclimatation, au jardin des plantes. C'est par une vraie observation très minutieuse qu'il transmet comme ça une vérité sur les animaux à un moment donné.
Oui, d'ailleurs, Paul Jouve a même lui-même possédé des panthères. Il a possédé à un moment deux jeunes panthères qu'il a apprivoisées et qu'il a fini par céder au cirque Medrano quand les animaux ont commencé à devenir un peu trop encombrants. Et Paul Jouve a frappé tous ses contemporains par la justesse de l'observation anatomique. Alors cette justesse de l'observation n'est pas ce qui saute aux yeux dans l'art des années 20 ou 30, précisément en raison de ce travail de synthèse. Mais en réalité, malgré ce travail de synthèse, malgré ce traitement très décoratif, il n'y a pas un muscle qui ne soit à sa place. Et ça, les naturalistes les plus critiques n'ont jamais rien trouvé à redire au dessin de Paul Jouve. La moindre vertèbre trouve sa place.
Yves Gagneux, avant de présenter dans une autre salle Une passion dans le désert de Balzac et l'illustration de Paul Jouve, vous présentez également différents ouvrages qui ont été illustrés par Paul Jouve, qui sont Le livre de la jungle de Rudyard Kipling, qui a été publié en 1919, mais j'imagine que la conception de ce livre a pris beaucoup d'années.
Oui, nous rentrons là dans ce monde assez peu connu par nos contemporains, qui est le monde du livre d'art. Le livre de la jungle est un projet qui date de 1905. Donc entre le projet et la réalisation, il s'est quand même passé 14 ans, ce qui n'est pas rien. Paul Jouve, au départ, devait faire une partie des illustrations et finalement, il les a toutes faites. Et il s'agit vraiment d'un de ces livres de très, très grand luxe qui sont tirés à des tirages ridiculement faibles. On dépasse pratiquement jamais les 150 exemplaires, c'est plutôt 120, 125, qui sont vendus d'avance par souscription, et les souscripteurs attendent plusieurs années, le temps qu'il faut, que le livre soit prêt. Nous sommes là vraiment dans la production de luxe française qui a commencé en fait dès le début du XXe siècle, mais qui connaît son apogée dans l'entre-deux-guerres, avec des ouvrages où tout est réfléchi, où tout est étudié, et qui ne laisse aucune place à l'erreur. Alors, cette absence de place laissée à l'erreur a été d'ailleurs la cause de faillite d'un éditeur, et notamment dans l'éditeur des Fables de Jean de La Fontaine. Donc nous présentons un exemplaire des Fables de Jean de La Fontaine, publié par Gonin. Mais Gonin n'est pas celui qui a lancé le projet. L'éditeur qui a lancé le projet a fait faillite. C'est pour cela que son nom n'apparaît pas, parce que les Fables de La Fontaine sont peut-être ce qu'il y a de plus riche en matière de livres de luxe. Il y a des dorures, des gravures à la dorure, c'est déjà très compliqué, c'est très complexe, et quand c'est compliqué, ça veut dire que l'on jette beaucoup, parce que si ça n'est pas parfait, on jette. L'imperfection n'existe pas dans ces livres-là, surtout en gravure. Et dans le cas des fables de Jean La Fontaine, il y a 5 types d'or différents. Donc des ors plus ou moins jaunes, plus ou moins verts, plus ou moins chauds. Et la juxtaposition de ces 5 ors, plus le travail des couleurs, fait qu'on a parfois été amené à, pour avoir une gravure, à en mettre 20 ou 30 au panier. Donc le papier est cher, le temps est cher, les matériaux sont chers, l'éditeur a fait faillite.
Et on a la chance dans ces ouvrages de voir Paul Jouve présenter des coqs, des vautours, des animaux qui ne sont pas habituels dans son animalerie.
Oui, effectivement, le coq est un animal important chez Jean de La Fontaine, donc il a bien fallu que Jouve s'y mette. Et il montre aussi ses talents complets d'animalier, parce que même si les coqs ne sont pas réputés comme des grands fauves, il a quand même une qualité d'observation qui est assez remarquable. Nous avons mis d'ailleurs dans la vitrine qui présente cet ouvrage, nous avons mis en parallèle la fable des deux coqs, avec le frontispice de l'ouvrage qui montre deux taureaux affrontés au-dessus d'un plan d'eau, et là où on a vraiment un travail de décoration qui n'a pas grand-chose à voir avec le naturalisme, ce qui montre aussi la capacité de Jouve à s'adapter et à travailler de façon aussi heureuse dans des styles très différents.
Nous voici dans la salle consacrée à l'ouvrage « Une passion dans le désert », illustré par Paul Jouve et écrit par Honoré de Balzac. Cet ouvrage a essentiellement été fait à partir de gravures.
Ce sont des gravures et qui poussent l'art de la gravure à un point absolument inimaginable. Nous avons ici un certain nombre de plaques en cuivre. Ces plaques ont servi à imprimer les couleurs pour une planche qui montre le soldat devant sa panthère. Et nous avons 3 jeux de planches, il en manque un 4e, à partir desquels nous avons essayé de comprendre comment les choses s'étaient faites. Dans un premier temps, 3 planches, nous sommes dit, sans doute, est-ce de la trichromie. Mais ça ne pouvait pas être de la trichromie puisque les détails et les creux ne correspondaient pas. Et il se trouve que nous avons aussi, dans un exemplaire que nous avons acheté, qui est au musée, nous avons des bons à tirer. Et nous avons pu voir des planches avec des essais, donc il y a des essais de couleurs. Et là, nous avons, en montrant ça à des graveurs, compris le procédé. En fait, sur une seule planche de cuivre, vont être juxtaposées jusqu'à 15 de couleurs. Les couleurs sont appliquées à la main, sans contact avec les autres, dont elles sont voisines, et en quantité rigoureusement identique, puisque s'il y a un défaut léger, encore on jette. Ce qui veut dire que pour réaliser une gravure, il faut intervenir plusieurs fois à la main sur chaque planche, et en réalité, on aurait pris moins de temps à peindre à la main chaque gravure. Et ce travail demande des prouesses techniques absolument impensables, c'est-à-dire que si on a un graveur extraordinairement doué, il arrive dans le meilleur des cas à faire 3 ou 4 gravures dans une journée. Donc, quand vous pensez qu'une page, c'est une gravure, vous imaginez pour un ouvrage qui compte quand même plusieurs dizaines de pages, le travail que ça peut représenter. Et on comprend pourquoi certains éditeurs se sont ruinés. C'est un travail d'une perfection technique, d'une qualité extraordinaire. Si l'on compare 2 gravures avec une loupe, on ne voit pas de différence. Et pourtant, c'est un travail à la main.
Combien d'exemplaires ont été tirés d'une passion dans le désert?
Alors, c'est un ouvrage qui a été tiré en principe en 123 exemplaires. En réalité, il y a aussi des exemplaires d'auteurs, car Jouvel a été suffisamment connu pour exiger d'être payé en exemplaires d'artistes qu'il pouvait lui ensuite vendre de son côté. Et alors que lorsqu'il a fait le livre de la jungle, Jouve, jeune artiste, n'a même pas reçu un seul exemplaire, car le prix d'un exemplaire excédait très largement la somme qu'on voulait lui donner.
Et qui a acheté ces exemplaires à l'époque ?
Alors, la maison de Balzac possède l'exemplaire de tête, le numéro 1. Et il est extrêmement intéressant de voir que cet exemplaire a été enrichi très largement au-delà de la moyenne. L'exemplaire de tête, normalement, devait, comme les 6 premiers exemplaires, posséder une suite de gravures en noir et une suite de gravures en bistre. En réalité, dans celui-ci, nous avons également une suite de gravures sur papier bleu et une autre, ça c'est beaucoup plus coûteux, sur parchemin. C'est coûteux parce que le parchemin coûte très cher, la gravure sur parchemin n'est pas forcément simple et là encore, s'il y a le moindre défaut, on jette. L'ouvrage possédait également des dessins, possédait toute une série de calques qui nous permettent de comprendre la façon dont Paul Jouve a travaillé, parce que Paul Jouve a tout conçu dans cet ouvrage. Il a conçu la décoration, il a conçu les bandeaux, c'est lui qui a prévu les liserés rouges qui entourent le caractère, c'est lui qui a prévu la couleur des initiales, c'est lui qui a prévu d'imprimer de temps en temps un mot en rouge et pas les autres, et pas forcément un mot qui fasse sens, c'est vraiment visuel. C'est lui qui a travaillé pendant 2 années sur les bandeaux en s'inspirant de livres sur l'Égypte, puisque l'histoire se passe dans l'Égypte, et là encore, avec un sens du détail qui fait que lorsqu'on montre ces réalisations à des graveurs professionnels aujourd'hui, ils en restent sans voix. Ce sont des choses qui aujourd'hui sont impensables à faire, c'est trop compliqué.
Est-ce que vous connaissez la genèse de cet ouvrage? Comment ça s'est fait? Est-ce que c'est Paul Jouve qui s'est porté volontaire pour illustrer l'ouvrage de Balzac?
Alors, au départ, si on veut vraiment revenir aux origines, il faut se représenter la crise boursière de New York en 1929, qui a très progressivement atteint l'Europe, et l'Europe a vraiment, en fait, a commencé à être touchée à la fin des années 30, et après, la Seconde Guerre mondiale est venue porter vraiment le coup final aux très grandes fortunes. Ce qui fait que lorsque les éditeurs, après la guerre, ont voulu reprendre leur manière de travailler, ils se sont trouvés confrontés avec une situation qui n'avait plus grand-chose en commun avec celle qu'ils avaient pu connaître dans les années 20 ou 30. L'éditeur de Paul Jouve avait au départ prévu de faire une faune de Buffon. C'était un projet tout à fait considérable. Et puis, se rendant compte que la situation avait changé, il a brutalement arrêté le projet. Mais comme il avait commencé à travailler avec Paul Jouve et que Paul Jouve s'était largement impliqué dans cette faune de Buffon, l'éditeur, d'une certaine manière comme compensation, a proposé ce texte qui est assez court et qui ne comportait que 13 gravures, certaines en double page. Donc, c'est ainsi que Paul Jouve a été pressenti. Alors, évidemment, si on a fait appel à Paul Jouve pour ce travail, ce n'est pas le fait du hasard. Paul Jouve a peint des fauves pendant toute sa vie. Une passion dans le désert, c'est l'histoire d'une panthère. Cet ouvrage, c'est vraiment la rencontre entre un texte et un auteur. Et c'est le parti que nous avons pris dans l'exposition en mettant sur les murs, d'égal à égal, le texte de Balzac et des œuvres de Paul Jouve, œuvres de Paul Jouve qui n'ont pas forcément été faites pour illustrer ce texte.
Effectivement, dans l'exposition, nous retrouvons beaucoup d'extraits du texte de Balzac. Yves Gagneux, vous présentez également dans cette exposition l'exemplaire personnel du livre de Balzac illustré par Paul Jouve. Le livre personnel ayant appartenu à Paul Jouve et qui a fait un exemplaire spécialement pour lui.
Voilà, il a pris un de ses exemplaires d'auteur et il a lui-même fait la reliure en prenant une feuille de cuivre qu'il a dorée, sur laquelle il a ensuite posé des piments et qu'il a verni. Donc on a une réalisation unique faite par Paul Jouve et qui montre aussi le soin que lui-même attachait à ses propres ouvrages.
Y a-t-il un autre endroit où l'on puisse trouver un exemplaire de cette Passion dans le désert de Balzac illustré par Paul Jouve, à part dans cette exposition ?
Si on veut voir l'intégralité du texte, il faut le posséder. Et pour posséder ce texte, il faut avoir la chance de le voir passer en salle des ventes et avoir suffisamment d'argent pour pouvoir l'acheter parce que ça n'est pas spécialement bon marché.
Thank you.
Alors, dans une des pièces de cette exposition Paul Jouve à la Maison Balzac, vous avez présenté chacune des 13 gravures l'une à côté de l'autre. Elles sont dans l'ordre, je suppose. Elles sont disposées toutes les combien de pages ?
Elles sont disposées sur un rythme extrêmement régulier, dont on sait, grâce à l'exemplaire que nous possédons à la Maison de Balzac, ce rythme a été choisi par Paul Jouve. Paul Jouve a fait des essais de rythme, véritablement, en prenant des pages imprimées qui sont toutes les mêmes et en intercalant périodiquement les calques, de façon à déjà donner le rythme du dessin. Alors, en même temps, l'ensemble est très animé parce que l'on a tantôt des illustrations sur une seule page, tantôt des illustrations sur des pages doubles. Enfin, il faut se représenter que ces gravures font écho à des lettrines, font écho à des bandeaux, et que c'est donc tout un ensemble que l'on a dans les mains, dans un papier de luxe. Enfin, c'est vraiment un petit bijou, cet ouvrage.
Il y a un travail d'illustration, de correspondance avec le texte. Là, c'est dommage qu'on puisse pas avoir le texte juste à côté, mais j'imagine ce travail de correspondance et de complémentarité entre le texte et l'image.
Complémentarité qui, d'ailleurs, a parfois donné du mal à Paul Jouve. Paul Jouve est en effet un très grand animalier. Il a beaucoup plus de mal à dessiner l'être humain. Et il a fallu, puisque l'histoire met en œuvre un soldat, il a fallu représenter ce soldat. Et on mesure parfois les difficultés que Paul Jouve a pu rencontrer dans ce travail qui pourtant ne paraît pas très compliqué. Et en général, d'ailleurs, le soldat occupe le deuxième plan et quand par hasard il est au premier plan, il tourne le dos, ce qui est toujours beaucoup plus simple.
Oui, où il est dans l'ombre.
Et on retrouve aussi les admirables capacités décoratives de Paul Jouve, notamment dans la façon de traiter les paysages, qui sont vraiment traités comme des mosaïques de couleurs par derrière. Et au fond, peu importe qu'il s'agisse de montagnes, qu'il s'agisse d'architecture, c'est un ensemble coloré qui est destiné à animer l'ensemble et à mettre en valeur le premier motif qui est au premier plan.
Il y a quelque chose qui relève de la mosaïque dans cette double page ici.
Oui, ce sont vraiment des petites touches de couleurs qui sont juxtaposées et qui sont destinées à donner un effet décoratif. Paul Jouve a commencé son travail comme décorateur et c'est un art qu'il maîtrise parfaitement. Mais il a également fait tout le tour de ces illustrations en double page où on a des motifs égyptiens qu'il a encore choisi et dont les couleurs mêmes sont en concordance avec les couleurs qu'il a retenues pour l'intérieur. Et on a une double page magnifique avec un aigle. Les rémiges de l'aigle sont ouvertes comme un éventail et cela fait écho aux feuilles des palmiers que l'on voit en bas. Et enfin, il y a encore les rayons du soleil que l'on voit dans le ciel qui donnent le même mouvement. L'ensemble est parfaitement équilibré. On est vraiment dans un chef-d'œuvre.
Et Paul Jouve avait d'ailleurs voyagé en Afrique du Nord.
Paul Jouve a été un des tout premiers pensionnaires de la Villa Beltif en Algérie. Il a donc très bien connu l'Afrique du Nord, il a beaucoup voyagé, il était très curieux, donc il a regardé, il est allé voir des paysages, il est allé voir les gens, il est allé voir les animaux. Oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup bougé, qui était, comme tous les peintres, qui possédait une mémoire très exercée.
Alors tout de même, parmi toutes ces panthères, est exposé un tableau ici à cette exposition Paul Jouve, un tableau de 1931 qui présente des Touaregs au bivouac. Et nous venons de le dire, Paul Jouve a donc séjourné en Algérie. Je crois même qu'il s'est marié en Algérie, qu'il a séjourné assez longtemps. Il y a quelque chose d'un peu d'ethnographique dans ce tableau, je trouve, avec la présentation des armes, des lances.
Alors, surtout, il faut déjà voir que ce tableau est un tableau absolument magnifique, et vous allez me dire, mais c'est en contradiction complète avec ce que vous me disiez sur la difficulté qu'éprouve Paul Jouve à peindre les êtres humains. Mais si on regarde attentivement, ce ne sont pas des êtres humains qui sont représentés, mais pratiquement des effigies de Touareg. Il a parfaitement rendu la noblesse de ces personnages, mais ces personnages sont tous complètement habillés. On aperçoit les yeux, et on aperçoit quelques mains, et très objectivement, les mains ne sont d'ailleurs pas la partie la plus forte de cette composition. En revanche, il y a un traitement des décoratifs, il y a un bouclier au premier plan avec des taches de couleurs, il y a des bijoux qui sont des éléments de tissu qui sont traités et la composition est merveilleusement équilibrée, en parfaite harmonie avec le décor qui est encore un décor de montagne traité de façon assez proche de la manière dont Paul Jouve a peint les objets. C'est d'un équilibre parfait, mais ce sont peut-être moins des humains que des idées d'être humain. On pourrait finalement y voir 4 statuettes juxtaposées, ce ne serait pas très différent.
Avec des yeux de panthère, quelque part.
Avec le regard sauvage d'un Touareg qui regarde de face le spectateur et une position qui rend toute la dignité de ses personnages.
Alors, Paul Jouve affectionnait les ocres et un panel de gris.
Paul Jouve est surtout remarquable par ses innovations techniques. Comme beaucoup d'artistes très actifs dans l'entre-deux-guerres, Paul Jouve a fait des essais un peu de toutes sortes. Et si l'on regarde attentivement la manière dont il travaille, indépendamment du fait que l'exposition montre aussi bien des grès que des sculptures, des mosaïques ou des peintures, on est frappé par la façon de faire. Certaines peintures sont peintes avec à la colle, on voit parfois l'usage du couteau, parfois l'usage de retrait. Enfin, c'est vraiment très très varié. Certains dessins ressemblent à des peintures, d'autres peintures ressemblent à des dessins. Il y a un travail de couleur, il y a un travail de fond, tout est entièrement repris et tout est parfaitement soigné surtout. C'est peut-être cette attention aux détails, cette recherche, ce goût de la perfection qui caractérise vraiment cet artiste.
Je note aussi que les cadres sont très art déco.
Alors on a des cadres qui ont été choisis par Jouve, certains qui ont été mis un peu plus économiques et qui ont été mis par Jouve parce qu'il voulait vendre ses œuvres rapidement. Et vous apprécierez aussi l'accord qu'il peut y avoir entre certains cadres argentés et la patine argentée que nous avons mis autour des portes du musée pour l'exposition.
Alors donc on l'a compris, cette exposition est organisée autour de l'ouvrage de Balzac et vous avez eu l'audace de présenter des œuvres des années 20 et des années 30 qui sont donc antérieures au travail d'illustration de La Passion dans le désert de Balzac. C'est donc que ces œuvres font quand même écho à ce qui va se faire ensuite en 1949 ?
En réalité, ces œuvres faites dans les années 20 et 30 expliquent le choix de Paul Jouve pour illustrer le texte. Donc il nous a semblé tout à fait légitime de mettre en résonance le texte de Balzac et les œuvres de Paul Jouve. Ça va ensemble parce que sinon, Paul Jouve n'aurait pas été retenu.
Et donc, vous avez présenté sur les murs certains extraits de l'ouvrage de Balzac. Est-ce que vous voudriez lire ce passage ?
L'aigle disparut dans les airs pendant que le soldat admirait la croupe rebondie de la panthère. Mais il y avait aussi tant de grâce et de jeunesse dans ses contours. C'était joli comme une femme. La blonde fourrure de la robe se mariait par des teintes fines au ton du blanc mat qui distinguait les cuisses. La lumière profusément jetée par le soleil faisait briller cet or vivant, ces taches brunes, de manière à leur donner d'indéfinissables attraits.
On dirait presque que c'est le texte de Balzac qui vient illustrer les œuvres de Paul Jouve en vous écoutant.
C'est un écho. Nous avons d'ailleurs placé le texte de Balzac et les œuvres de Paul Jouve d'égal à égal. Et ni l'un ni l'autre ne se trouve au centre de l'estimèse. Ils partagent la place d'honneur. Parce que c'est vraiment un mariage que nous avons voulu montrer, un mariage entre un artiste, plasticien, un peintre, et un écrivain.
Un mariage anachronique, mais qui marche.
Un mariage anachronique, mais qui a eu lieu en 1949.
Ce texte de Balzac est relativement peu connu, c'est pas un des grands ouvrages de Balzac.
Il est extrêmement peu connu et complètement atypique. À cela, plusieurs raisons. D'abord, il est très court. Il n'a jamais été présenté dans le Lagarde et Michard et autres grands classiques de l'enseignement du français pour différentes raisons. D'abord parce que ce texte est quand même assez scabreux. L'histoire d'un amour d'un homme et d'une panthère, c'est... Malgré tout, ça a un peu choqué certains. Et puis, c'est effectivement un texte où les gens ne retrouveront pas le Balzac qu'ils ont découvert au lycée et qui parfois a pu laisser de mauvais souvenirs. Pas la moindre description. Nous sommes très loin de l'agonie du Père Goriot ou de la lente décrépitude de Jenny Grandet. C'est un texte très vivant, très court, une des très rares scènes de la vie militaire, mais que Balzac a un moment envisagé de placer dans les œuvres philosophiques, donc il a envisagé de lui donner une place beaucoup plus importante. Et c'est un texte qui, comme tous les textes de Balzac, a soulevé des interprétations totalement contradictoires. Certains ont voulu voir une métaphore très ordinaire de l'amour, la panthère est en fait la femme panthère, la femme fatale, la dominatrice, bon. D'autres ont dit, mais pas du tout, vous ôtez tout son sens à ce texte, en réalité c'est bien une panthère, et c'est pour ça que c'est important, c'est une véritable passion, et dans la passion, on ne fait pas du tout attention si on est dans les normes, donc on est vraiment dans le désert parce que on ne fait plus du tout attention à la façon dont les autres vous regardent. on est seul avec soi-même et l'objet aimé. D'autres ont dit, mais pas du tout, vous n'y avez rien compris. C'est une conception presque métaphysique de Balzac. Le désert, c'est l'évocation de la Thébaïde de Saint-Antoine. On est vraiment dans la tentation de Saint-Antoine. Bon. Voilà, donc des explications qui se complètent, qui ne s'annulent pas d'ailleurs nécessairement l'une l'autre, et qui montrent là encore la complexité de cet écrivain qu'on peut relire 10 fois en y trouvant à chaque fois des choses différentes. C'est un peu comme Stendhal ou comme Flaubert, c'est le propre des très grands.
Merci beaucoup Yves Gagneux. Je rappelle donc que cette exposition Paul Jouve est présentée à la Maison de Balzac, dans le 16e arrondissement, jusqu'au 6 janvier 2008. Vous trouverez tous les renseignements sur notre site www.canalacademy.com. Bonne journée.